Bonjour Christine.
Bonjour Lucie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es aujourd'hui dans ma maison presque vide puisque je déménage dans 2 jours et tu es toi aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc ça me permet de faire enfin une interview en face à face. Et d'ailleurs, les prochaines, je pourrais les faire de la même manière en France. Alors, qui es-tu de manière générale? Je te laisse te présenter.
Alors, de manière générale, je m'appelle Christine, j'ai 46 ans. Je viens du monde médical puisque j'étais sage-femme et il y a là à la fin du mois, ça fera 2 ans que j'ai fermé mon cabinet de sage-femme libérale que j'avais monté depuis 14 ans en fait. Je me reconnaissais plus dans les valeurs pour lesquelles je voulais faire ce métier quand j'étais gamine. J'avais 12 ans en fait quand j'ai voulu faire ce métier. Et je ne retrouvais plus les valeurs qui m'avaient passionnée à l'époque. Et au bout de, on va dire, 2 ans, j'ai décidé de mettre en vente mon cabinet, mais en plein dans le confinement. Donc au final, je n'ai pas pu le vendre, mais j'ai fermé tout propre, tout nickel. Donc au final, ça m'a très bien convenu. Et j'avais déjà une activité, j'ai toujours une double casquette. En tant que thérapeute en thérapie brève, puisque j'ai d'autres formations à mon actif, et j'ai pu ainsi investir complètement cette activité parce que l'activité de sage-femme me prenait énormément de temps, évidemment. Donc là, j'étais sur mon activité de thérapeute et ensuite, je voulais justement... Enfin, voilà, je vais déjà un peu plus loin. Je voulais créer mon site internet en tant que thérapeute pour pouvoir proposer de façon plus globale de l'accompagnement pour les femmes et les enfants, avec des publications Facebook. Voilà, je voulais quelque chose sur le web de plus complet. Et c'est ainsi que je suis arrivée à ta formation. Et la formation aussi que tu as montée avec Doris, d'ailleurs, puisque j'ai pris les 2 formations coup sur coup pour pouvoir faire ça d'abord pour moi en tant que professionnelle. Et en fait, ça m'a titillé un petit peu en me disant « bah oui, au final, tu pourrais aussi le faire pour les gens, d'autant plus que dans mon réseau vraiment de proximité, enfin, comme je te disais l'autre fois, j'ai envie de mettre le torchon quelquefois sur ma tête en me disant « non, non, on va s'arrêter là parce que je vois tellement d'opportunités de travail que je me dis « non, je ne peux pas répondre à tout et on va y aller tranquillement ». Voilà.
Donc aujourd'hui, tu continues ton activité de thérapeute et à côté de ça, tu fais de la rédaction web de façon professionnelle, du community management et du social media management parce que tu as suivi la formation social writer aussi.
Oui.
Donc tu as suivi Liberté avec pack accompagnement, c'est ça?
Bah alors pour la petite histoire, au départ, j'avais pris le pack Liberté seul. Et au final, avec les exercices, j'avais envie quand même d'avoir un retour, de savoir où j'en étais dans ce que je rédigeais et de pouvoir me situer en fait sur ce que je devais améliorer ou pas. Et très vite, en fait, j'ai pris le pack accompagnement qui a été vraiment... je trouve que ça apporte vraiment une autre dimension en fait.
Oui, complètement. Donc toi, tu es originaire du nord de la France.
Oui.
Et tu vis en Nouvelle-Calédonie.
Oui, dans le sud.
Depuis
19 ans bientôt.
19 ans, avec ton mari et ta fille.
Oui, c'est ça.
De 9 ans.
De 9 ans, oui.
Voilà. Alors, comment t'as fait... Alors, j'ai une question, puisque tu me dis que tu te retrouvais pas dans les valeurs de ton métier de sage-femme.
Oui.
Et ça m'intrigue, pourquoi ?
Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais passionnée. C'était vraiment mon leitmotiv, c'est mon fil rouge. C'est l'accompagnement des femmes à toute étape de leur vie et de l'enfant. Et pas que au niveau physique, médical, mais aussi au niveau psychologique, émotionnel, puisque à côté de ça, je suis sophrologue, hypnothérapeute. Et dans la profession de sage-femme, ça devenait assez compliqué, c'était codifié, enfin ça l'est toujours. Hein. Alors, à juste titre, puisqu'il y a un code de déontologie, il y a une éthique, donc ça, ce sont des valeurs que je porte et que je conserve encore dans mon activité de rédactrice web et social media manager. Mais c'est vrai que je ne m'y retrouvais plus dans le sens où les rapports avec les autres professionnels, par exemple, étaient compliqués. Les rapports avec la CAFAT, l'équivalent de la Sécurité sociale en France, pouvaient être aussi compliqués. On n'était pas forcément reconnus et respectés dans ce qu'on faisait. Il y avait toujours, même entre collègues, hein, il pouvait y avoir des jalousies ou des petites choses comme ça qui me chagrinaient un petit peu quand même au quotidien et qui ont fini par me peser. Et à contrario aussi, eh bien, les femmes qui venaient en consultation en me disant « Ah, mais moi, j'ai ça parce que j'ai regardé sur Internet et du coup, bah, je veux tel traitement. » Ça commençait vraiment à m'énerver, en fait. Je perdais patience. Je me suis rendu compte, au final, que le matin, j'allais travailler au cabinet avec, pas les pieds de plomb, mais il n'y avait plus le même enthousiasme que j'avais au départ, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, là, c'est un signe d'alerte, il faut que tu t'arrêtes. Il n'y a plus les valeurs, tu ne les reconnais plus, donc non, il n'y avait plus de plaisir réel, en fait. Et c'était trop redondant, trop répétitif, répondre tout le temps aux mêmes questions. Ouais, j'arrivais plus. C'était plus moi.
Et là, aujourd'hui, dans ta nouvelle activité, tu as combien de pourcents, on va dire, sur tout ce qui est digital, social media, rédaction web, et combien de pourcentages sur ton activité thérapeute?
Alors, l'activité digitale, elle est très minime, puisqu'en réalité, ça va là se mettre en place en janvier pour toute l'année, avec un principal gros client, comme je te l'avais dit, mais en fait, c'est vraiment mon réseau de proximité. Donc, c'est des personnes en qui j'ai confiance. On s'engage sur un travail pour l'année et je sais que ça va perdurer derrière. Et l'activité social media manager, c'est pareil. C'est une personne dans mon entourage que je connais, que j'ai contactée en lui disant « Voilà, j'ai suivi telle formation, j'arrive sur la fin. Est-ce que tu aurais des propositions de travail à me donner ?» Et elle m'a proposé, en fait, la rédaction de post Facebook, donc bah, en sous-marin, évidemment, c'est pas à mon nom, hein, mais je suis OK avec ça aussi. Du coup, c'est vraiment un infime pourcentage pour le moment, mais qui va vraiment évoluer là pour 2023.
Tu comptes en faire combien, par exemple? Tu t'aimerais t'organiser
dans le ratio?
Oui.
Dans le ratio, je ne me fixe rien. J'ai envie de laisser faire et de voir comment ça évolue. Parce qu'il y a à la fois mon activité donc, de consultation, l'activité digitale, et il y a aussi mon projet de départ que j'avais de créer mon site internet, de moi développer mes articles, mon blog, ma page Facebook. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc je laisse aller et je verrai quelles sont les opportunités, vers quoi ça me mène. Et je mets vraiment un accent à accepter les clients, mais vraiment qui me correspondent, qui ont les mêmes valeurs que moi, avec qui j'ai un très bon contact, parce que pour moi, le contact humain est primordial. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon métier de sage-femme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais voilà, je mets vraiment un point d'honneur à sélectionner, à dire « oui, là, je le sens bien, on y va, il y a une bonne entente, ça se passe bien ». Ou non, là, dès le départ, je ne le sens pas bien et on n'y va pas. Je ne vais pas me priver là-dessus, en fait.
Est-ce que tu te sens armée suffisamment aujourd'hui avec les formations que tu as suivies, pour, donc les nôtres, pour démarrer cette activité et créer ton site internet comme tu l'avais prévu?
Alors, par rapport à la rédaction d'articles, oui, évidemment. J'ai même l'impression, en fait, d'avoir plein d'armes devant moi, pour reprendre l'image. Et en fait, d'avoir appris à manipuler certaines, mais d'être vraiment dans les prémices. Je me dis que là, 2023, ça va être aussi quelque chose de décisif, entre guillemets, parce que la formation, elle est tellement dense, il y a tellement d'outils que tu mets à notre disposition, que j'ai bien conscience, pour moi, en tout cas à mon niveau, que je n'ai pas tout exploité. Je pense que j'en ai exploité peut-être 30%. Mmh. Avec les exercices, mais après j'ai toujours envie aussi d'aller plus loin dans ce que je fais, j'ai toujours envie de creuser, donc par exemple le copywriting et le storytelling, ce sont deux choses qui me tiennent à cœur de ma formation en hypnose et en sophrologie, puisque j'ai déjà l'habitude de jouer avec les mots, mais j'avais envie d'aller encore plus loin, raconter une histoire. J'ai suivi un module de formation Contes et métaphores. J'ai aussi envie d'aller plus loin. Voilà des exemples que tu abordes déjà assez dans la formation, mais j'ai envie d'aller encore plus loin derrière, et pourquoi pas me spécialiser là-dedans, parce que c'est des aspects techniques, on va dire, de rédaction qui sont fluides pour moi au final, parce que je les pratique déjà.
Quand tes métaphores, alors, tu as suivi un MOOC ou c'était...
Alors non, c'est dans la formation en hypnose ericksonienne que j'ai suivie, en présentiel à Nouméa, où on avait différents modules optionnels que l'on pouvait prendre. Et donc, où j'avais choisi Compte et métaphores, étant sage-femme. J'avais créé des ateliers avec les enfants et les parents, en fait, pour permettre aux parents de raconter, de construire, d'inventer des histoires à leurs enfants pour les aider à s'endormir, des choses comme ça, en fait.
Génial.
C'est un module en hypnose ericksonienne, en fait.
D'accord, donc toi, en fait, tu as un profil assez différent des autres personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent, puisque tu n'as pas l'ambition d'être rédactrice web, freelance à 100%. C'était pas une totale reconversion, c'était une sorte d'évolution.
Oui, c'est ça. Une sorte d'évolution, une continuité dans mon profil pro, on va dire. Mais pareil, je me dis... Je pense bien que pour ma retraite, je serai rédactrice web à 100%. Je pense que ça va le faire.
Dans oui, ce parce sens-là. Que là, tu as des déplacements et tout, mais tu t'éclates parce que c'est ta passion. Oui. En même temps, tu peux réussir à communiquer, suivre tout ce qui se passe. C'est vraiment sympa comme approche. Et on a beaucoup de gens, et c'est normal, qui ont très, très peur de quitter un emploi stable. En l'occurrence, sage-femme, c'est des études, c'est ouvrir son cabinet, c'est se faire une patientèle, etc. Toi, comment t'as trouvé la force et le courage de tout arrêter pour te reconvertir ?
Ben en fait, je peux pas vraiment dire que c'était une force ou un courage. C'est que le métier de sage-femme, j'en avais fait le tour, c'était bouclé, c'était à archiver en fait. Alors évidemment, ces compétences de sage-femme, je m'en sers toujours et oui, je vais être peut-être spécialisée aussi dans le domaine de la santé, dans un premier temps en tout cas, pour écrire, puisque c'est vrai que nos compétences, nos spécificités, comme tu le dis dans les tout premiers modules, elles sont là, on est unique en tant que rédacteur web.
Oui.
Et je sais pas, je pense que par la suite, il y a une image qui me vient en fait. Je ne vais pas être à quatre pattes à jouer les chiens dans les garderies quand j'aurai 60 ans. Donc, non, mais je pense que oui, à un moment donné, c'était terminé cette profession-là pour moi et il fallait que je passe à autre chose. Et j'avais envie d'écrire et notamment dans la continuité professionnelle, d'écrire mon site, d'avoir un blog pour pouvoir partager avec les gens en fait.
Pour beaucoup de gens, ça c'est une prise de risque et c'est sortir d'un confort, d'une sécurité qu'on a. Toi, tu fais partie de ces gens pour qui le confort, c'est de ne pas rester dans l'inconfort. Je suis comme toi. Quand je ne suis pas bien, j'ai besoin de sortir. Et je me dis que quel que soit le chemin, tant que je quitte ce que je suis en train de vivre qui ne me convient pas, ça sera meilleur. Et peu importe.
Oui. Voilà. Mais j'ai un tempérament à être plutôt indépendante. J'aime bien avoir mon autonomie, travailler comme je l'entends avec mes propres valeurs. Et en fait, c'est aussi peut-être en réaction, c'est que le salariat ne me convient pas du tout. J'ai exercé en milieu hospitalier, en clinique. Non, c'est pas pour moi.
T'es entourée, t'es soutenue par ton entourage ?
Alors, entourée et soutenue, oui, il y a mon mari qui est là dernière, mais c'est pareil, les formations, c'est moi qui les mène la journée pendant qu'il est au boulot. On n'en parle pas énormément, mais... En fait, c'est moi, une fois que j'ai une idée et que je veux accomplir quelque chose, je travaille toute seule. En fait, je n'ai pas besoin qu'on vienne me soutenir derrière quelque part tous les jours en me disant « Oui, Christine, tu as raison. » Au contraire, j'ai besoin qu'on me foute la paix et que j'aille vers mon objectif à mon rythme.
Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui m'interroge, les différences de personnalité. Parce que chez les élèves FRW, on a vraiment des personnes qui ont besoin d'être soutenues et qui vont se laisser vraiment porter par la formation. Et s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mettront la faute sur la formation. Alors que cette même formation convient très bien à d'autres personnes qui réussissent et qui avancent seules. Et ça, c'est difficile pour nous de répondre à des élèves qui nous dirait il y a ça qui va pas. Alors bien sûr, s'ils nous disent il y a ça qui va pas, on essaie de l'améliorer. Mais si il y en a qui nous disent avec cette formation je n'ai pas pu y arriver, ça arrive bien sûr qu'on ait des élèves, ils sont vraiment peu nombreux, mais ça arrive qu'on nous le dise. Et dans ce cas, mais que peut-on leur répondre en fait ?
Eh bien, tu sais, c'est un petit peu l'histoire aussi, justement, dans les consultations d'hypnose, où quand on te dit « je voudrais venir vous voir, je voudrais prendre rendez-vous avec vous parce que je veux arrêter de fumer ». Donc quand c'est comme ça, moi je dis vous allez arrêter de fumer et après vous venez me voir et je vais vous accompagner. Mais c'est pas moi qui vais vous faire arrêter de fumer. Et là, dans ces cas-là, forcément, tu fais mauvaise impression, hein, puisqu'on attend que tu aies le coup de baguette magique, que par enchantement, il n'y a pas besoin de travailler derrière, d'être motivé, de s'investir. Et on va y arriver parce que, justement, c'est l'autre en face qui va me donner les moyens. Mais en réalité, c'est toi qui te donnes tes propres moyens, c'est pas l'autre en face.
Moi, je leur dis, c'est une formation. Dans formation, il y a se former, donc il y a travailler, il y a faire les exercices et aller au bout. Et c'est pas un sésame, c'est pas un pass que vous achetez. C'est,
Oui, mais je pense que tu sais, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être un peu la différence d'approche qu'on va avoir entre, peut-être que je me trompe, entre un salarié et un entrepreneur.
Oui.
L'entrepreneur, il a déjà l'habitude de se prendre en charge, de s'assumer et d'y aller. Le salarié, ma foi, il vient faire sa journée de travail. Je caricature, je pense que j'exagère. C'est pas tout le monde comme ça, mais il fait sa journée, qu'il la fasse à 200% ou qu'il la fasse à 5%, à la fin du mois, il aura son salaire. Et du coup, derrière, il y a un petit peu une forme d'assistanat pour avoir notre salaire, quoi.
De se laisser porter.
Oui, voilà, de se laisser porter, exactement. Et dans une formation, moi, en tout cas, ma philosophie, c'est j'ai pris cette formation, c'est pour m'y investir à 100%, faire mes exercices, avancer. C'est pour ça aussi que j'avais repris le pack accompagnement derrière, pour avoir un retour et avancer d'autant plus, pour justement mettre complètement à profit cette formation et arriver sur un travail au final qui va être optimal à mes yeux. Je vais me donner à 200% là-dedans et c'est ce que je vais faire là maintenant quand je rédige des articles ou que je rédige des posts. J'y mets tout mon cœur, j'y mets mon énergie et toute la compétence que j'ai pu apprendre aujourd'hui et je sais que je vais encore évoluer. Mais on ne peut pas dire à un formateur ou à une formation, au final, ça m'a servi à rien, votre formation, elle vaut rien. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi à se remettre en question. Alors, bien sûr, dans une formation, on peut toujours aussi améliorer des choses, évidemment. Mais là, ta formation, elle est tellement dense, déjà. Je sais pas ce que tu pourrais y mettre en plus. Mais voilà, enfin, quand je vois tout, on parlait des podcasts, les émissions YouTube, tout le contenu dans la formation, les écrits, j'ai pas encore tout pu ouvrir, quoi. C'est pas possible. Et ça fait un an.
Et oui, oui. Alors, pour essayer de trouver le point commun entre les personnes, voilà, qui ont cet état d'esprit d'entrepreneur, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la famille dans laquelle tu as grandi, de ton enfance et de ce que t'ont inculqué tes parents pour que tu sois aussi autonome et que pour toi la prise de risque ne soit pas un problème et que ce soit même pas, on parle même pas, j'ai jamais entendu le mot risque dans ta bouche, c'est juste une évolution naturelle parce que tu fais ce que t'as envie.
Oui, alors en fait je viens d'un milieu ouvrier. Mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Et en fait, ça a été très chaotique entre mes parents, les enfants, ma fratrie, et j'étais l'aînée. Et du coup, c'est vrai que très rapidement, j'ai dû me débrouiller toute seule. Spontanément, j'ai voulu m'occuper de mon petit frère, ma petite sœur, en étant l'aînée. Je me suis mis une charge assez importante d'ailleurs, que j'avais peut-être pas à prendre, mais en tout cas, c'était ce que j'avais envie de faire à l'époque. Et de fait, c'est en réaction aussi, en fait. Ça a été, ma mère était au foyer, en fait, quand j'ai grandi. Et puis, moi, je m'étais toujours dit, parce que, de mon point de vue, elle n'était pas forcément très heureuse en tant que femme. Elle ne s'était pas réalisée, ce qui a changé quand même en partie aujourd'hui. Mais je m'étais dit, moi, je ne veux pas une vie comme elle, en fait. Moi, je veux être autonome, je veux être indépendante, je ne veux pas dépendre d'un mec, désolée. Mais je veux me débrouiller et pour y arriver, bah, il va falloir que je travaille. Et du coup, bah, pour travailler, à 12 ans, je voulais être sage-femme. Donc, bah, la seule possibilité que j'avais, c'était de réussir les études de sage-femme. D'ailleurs, ça a été aussi avec des embûches parce que j'avais pas obtenu le concours d'entrée en école de sage-femme en France, mais je me suis battue et je suis partie en Belgique me former, où c'était là sur dossier, enfin voilà, les critères d'admission étaient différents. Et là, j'ai été admise et j'ai pu faire ces études-là. Donc, très rapidement, j'ai appris que si on voulait quelque chose, bah, c'était à nous de nous battre pour l'obtenir, qu'il n'y avait pas à compter sur les autres. Moi, dans ma fratrie, quelque part, je suis la seule à avoir poussé les études, à avoir obtenu le bac et puis à avoir poussé derrière. Mais après, peu importe, parce que mon frère, mes sœurs ont de bonnes situations aussi, même sans le bac, hein, donc c'est pas non plus péjoratif. Mais voilà, j'étais la seule à partir dans des études plus longues, et du coup, bah oui, j'étais toute seule, il fallait que je me débrouille par moi-même. Donc c'est de là que ça m'est venu, et c'est une force. Là, oui, c'est une force.
D'accord, ben oui, souvent il y a des points communs, effectivement. Chez les personnes qui ont Je le redis tout le temps, mais le locus de contrôle interne, c'est ça. Merci Michel pour ces explications que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Oui. Donc, quand enfant, on a été responsabilisé,
c'est ça.
Ça change beaucoup à l'âge adulte. Et c'est vrai que peut-être que les personnes qui ont été trop choyées, je m'avance vraiment, hein, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je fais très attention avec mes filles de pas trop les gâter. Même si c'est dur, mais parce qu'on...
Ouais. Ben, en fait, je pense quand même que je gâte bien ma fille.
Ah ouais.
Mais ça ne m'empêche pas non plus de lui inculquer certaines valeurs, en fait.
Oui.
Comme le partage, la générosité, prendre soin des gens. Comment je le fais, je pense que ça passe naturellement entre nous. Et puis maintenant, elle a 9 ans, donc elle verbalise aussi.
Oui.
Et du coup, on en discute. Et c'est vrai que... bon, après, je suis dans le soin, hein, donc peut-être qu'aussi ça influence mon attitude dans mon ouverture envers les gens, en fait. Mais je suis comme toi, j'adore les gens, j'adore les histoires de vie, j'adore échanger. Je suis très sociable, même si j'aime bien avoir mon confort et travailler à la maison me va très bien. Mais du coup, ma fille, bah, c'est un petit peu pareil. Elle est plutôt introvertie par rapport à moi, qui peut être plus extravertie. Mais en tout cas, je sais qu'elle a confiance en elle, parce que quand elle se regarde devant le miroir et que je dis « Mais oui, t'es belle, ma fille », elle me fait « Mais oui, je sais, maman ». Donc je pense que confiance acquise, c'est bon. Mais c'est dans les attitudes, les comportements, ce qu'on va leur dire que ça va probablement passer. Après, comme je dis à chaque fois à mes patientes, quelle est la mère parfaite ? La mère parfaite, elle n'existe pas. C'est toi la mère parfaite pour ta fille, ou en tout cas ton enfant, qui évolue là, dans cette famille avec toi. Donc, il n'y a pas de mère parfaite.
Tu lui as parlé de ton enfance à...
Oui, elle est au courant. Mais je pense que pour l'instant, à 9 ans, elle ne percute pas encore, elle ne prend pas le poids de tout. Je ne pense pas.
Mm-hmm.
Mais elle est au courant, oui, elle est au courant d'énormément de choses.
C'est génial à cet âge-là, moi c'est pareil, la mienne a quelques mois d'écart avec la tienne, ma grande. Et c'est vrai que je me régale d'avoir des discussions avec à cet âge-là, c'est vraiment sympa. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on est un petit peu, désolé hein, pour la CCI et compagnie, mais on est un peu en retard au niveau digital.
Ah oui. Oh là là. Oui, alors c'est vrai, écoute, là ça a été, je peux dire, une grosse claque que je me suis prise, mais plutôt de façon positive justement en ayant suivi ta formation. La personne que j'ai contactée qui a une agence de communication en lui disant voilà, j'ai suivi telle formation, est-ce que tu aurais des choses à me proposer ? Au final, je me rends compte qu'elle n'a pas de ligne éditoriale, elle n'a pas de planning éditorial pour les postes en tout cas qu'elle me demande. Et je me dis, mais pourtant, j'ai cru comprendre que c'était la base dans ce boulot. Et en fait, elle ne l'a pas. Après, quand on regarde forcément, je suis abonnée à des pages, je vois les posts qui passent, par exemple. Je parle de Facebook parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus visible immédiatement, en fait. Il y a des fautes d'orthographe, il y a la façon dont les phrases sont rédigées ou dont c'est présenté. En fait, je suis un peu tombée en me disant « Mais tu te mettais la barre super haute et tu te mettais vachement la pression en suivant ta formation en me disant « Ouais, ça, ça doit être nickel et tout. » Et au final, quand je regarde ce qui se fait couramment, le niveau est quand même... pas très élevé. Oui,
est-ce que c'est pas quelque chose de général? Alors moi, donc pour remettre dans le contexte, hein, là, donc on est chez moi au milieu des cartons et je quitte définitivement la Nouvelle-Calédonie dans 6 jours où j'ai trouvé que c'était sympa, c'est joli, mais j'y étais clairement pas heureuse parce que j'étais vraiment carencée culturellement et puis oui. En plus avec les 2 ans de Covid, loin de la famille et tout ça, c'était compliqué à vivre. Mais en plus de ça, par exemple, en ce moment, j'ai une voiture de location, donc je ne peux plus écouter ma musique. Et je me suis mise à écouter la radio. Et à la radio en Nouvelle-Calédonie, c'est le festival de fautes de français à l'oral. Et j'ai que France Inter pour remonter le niveau. Et alors, dès que je mets France Inter, j'ai l'impression d'écouter l'élite de la nation. Et effectivement, sur les sites internet, les pages Facebook, tout ce qui est digital, le SEO, ils sont restés à des techniques qui datent de 2010 et pourtant, ils font des conférences à la CCI où ils présentent des pratiques qui n'ont pas du tout lieu d'être aujourd'hui.
Oui, alors par rapport à la radio locale, sache que je n'écoute pas la radio locale, que je suis dans ma voiture, j'écoute les chansons pour le chant.
Oui, donc nous prenons des cours de chant avec Christine, avec la même prof, d'ailleurs, coucou Dolores.
Oui, coucou Dolores. Et la radio, donc ça c'est réglé. La télévision, je ne regarde pas la télé non plus, donc au niveau local,
moi, j'ai jamais regardé.
Je ne suis pas en contact avec tout ça. Ouais. Et puis, c'est vrai que donc les personnes que... les clients que j'ai là, avec qui je vais démarrer vraiment en 2023, donc sont dans mon réseau de proximité. Et quand on a eu un entretien avec l'actionnaire de la boîte qui vient de France, en fait, il me dit... l'idée, c'était de présenter un petit peu ce que j'allais leur proposer, pour le coup, en tant que social media manager. Et je leur avais fait juste un petit PowerPoint pour leur expliquer l'avantage d'avoir une personne comme moi à leur côté. et puis, en leur expliquant tout simplement, en leur montrant, j'avais préparé un tableau pour le planning éditorial où j'avais marqué juste les dates social media classiques, hein, en disant, voilà, le type de tableau que je pourrais vous présenter pour le suivi. Enfin, voilà, je leur explique plein de choses. Et en fait, ils étaient éblouis, ils n'en pouvaient plus. Alors, la petite anecdote, c'est, je ne sais même plus la date, la journée internationale du pop-corn, où je leur dis, voilà, un exemple de poste qu'on pourrait faire, et donc en le mettant en lien avec leurs produits. Et là, en fait, c'est ça qu'ils ont retenu, je pense, de la conversation. C'est que, il y a plein de choses à créer, il y a plein de choses à imaginer, des liens à faire. Et en fait, que ce soit en rédaction web, pour les articles de blog, par exemple, ou une newsletter, ou en post Facebook, la créativité, l'imagination, peut-être qu'ici, c'est un peu restreint, je ne sais pas. Donc, moi, ça me paraissait vraiment spontané, on va dire, dans les idées que j'allais apporter. Et eux, ça a été énorme. Je pense qu'en plus, moi, ça, c'est vraiment aussi quelque chose dont je me suis rendu compte en ayant eu un entretien. Hein, c'est rien, hein, je suis au tout début de ma vie de rédactrice web, quoi. Mais je me suis rendu compte qu'en ayant suivi ta formation, on engrange énormément de connaissances. Que maintenant, oui, si je regarde un site internet, je suis capable de voir où je peux porter des améliorations juste comme ça en regardant en 2 minutes. Et en fait, en leur évoquant, en fait, les entreprises, ils y connaissent rien, quoi. Et du coup, c'est nous qui avons le savoir. C'est à nous de partager avec eux, à vulgariser aussi la profession pour leur expliquer qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce que rien que le terme rédactrice web et SEO, bon, bah, ça y est, on a déjà dit des gros mots. Et puis, social media manager, il n'y a plus personne. Donc, il faut leur expliquer. Donc, c'est pour ça. Moi, je suis visuelle, en fait. Hein. Donc, des tableaux, des PowerPoint. Voilà, en ayant utilisé, justement, pour faire mon tableau de PowerPoint, les couleurs qui leur sont propres. Ah. En disant, voilà, ça fait partie de votre ligne éditoriale.
Ouais, c'est bien.
Tu vois, donc, tout de suite, ça a matché, quoi. Bon, après, voilà, c'est des personnes que je connais depuis longtemps, tu vois. Mais il a fallu se vendre quand même. Mais c'est bien.
Ouais, bravo.
Mais du coup, je me rends compte qu'on a engrangé énormément de connaissances. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la formation rédaction web et social manager que vous proposez avec Doris, c'est très complémentaire. Oui. Et moi, ça me donne le sentiment, effectivement, de globalité, ce que je recherche vraiment. Ça fait partie de mes valeurs. C'est pas fonctionner en tiroir. Et de pouvoir apporter quelque chose, oui, de plus complet. Et je trouve que ça nous donne vraiment du recul par rapport à la stratégie digitale, oui, que peut avoir une entreprise. Parce qu'au final, si je rédige une newsletter, si je rédige un article pour un blog pour une entreprise, ben ça s'inscrit quand même dans la ligne éditoriale, dans leur planning éditorial. Et du coup... c'est vrai que c'est déjà énorme de rester sur le rédactrice web, mais moi, je trouve que ça m'apporte vraiment une autre dimension qui est complémentaire et qui me permet d'avoir du recul et de se sentir d'autant plus investi avec l'entreprise avec laquelle on va travailler. Je pense que ça a pu jouer énormément lors de l'entretien.
Oui, oui, c'est exactement ce qu'on avait voulu faire. C'était créer, en fait... la formation en rédaction web qui est vraiment la base, parce que si tu veux faire du copywriting, du social media ou créer des sites WordPress par exemple, tu as besoin de déjà savoir écrire des pages, une page d'accueil, oui, une page à propos. Et en fait, c'est un peu comme... c'est quoi le... Ouais, c'est des modules où tu construis en rajoutant des modules et
oui,
tu peux... Et ensuite, une fois que tu as tout, tu peux créer ton job sur mesure. Alors bien sûr, tu peux ne faire que de la rédaction web, tu peux faire que du social media... Et tout ça, il y a peut-être encore plus de diversité dans le social media management, puisque tu fais du graphisme, tu choisis les couleurs, il y a le côté un peu déco, créativité.
Oui, c'est vrai, c'est la créativité, mais dans ton texte, t'es créatif aussi.
T'as besoin de moins de concentration, en fait, sur le social media, parce que quand tu vas... Par exemple, si tu fais des posts et que tu te dis, il faut que je fasse des vignettes ou des... Tu vas pouvoir mettre la musique et sans réfléchir, tu prépares tes visuels. Alors que la rédaction web, moi, je ne peux pas du tout écouter
complètement
quoi que ce soit de la musique. Et c'est vraiment... intellectuellement, c'est assez fatigant, la rédaction web.
Oui.
Mais c'est très stimulant. Et après, on voit qu'on acquiert des capacités, un esprit de synthèse, même si là, aujourd'hui, ça ne se voit pas de mon côté. Mais un esprit de synthèse et de la rapidité pour résumer des choses et faire des recherches. Et ça, c'est sympa parce que moi, je le vois là. J'écris moins... en rédaction web, puisque là, j'ai quand même écrit 2 bouquins en 2 ans, donc j'ai été plus dans de l'écriture papier. Et je vois la difficulté que j'ai à m'y remettre d'avoir fait cette pause de 2 ans. J'ai envie de reprendre mon blog, tu vois,
un petit peu.
Mais c'est dur.
Ben oui, c'est dur. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de concentration, genre d'écrire un article optimisé de 1000 mots que... entre guillemets aussi, un petit post Facebook avec les emojis.
Et oui.
C'est pas du tout la même ambiance.
Ouais.
Mais c'est ça que j'aime bien, c'est complémentaire en fait.
Ouais, c'est complémentaire. Et puis tu peux vraiment gérer le matin, t'es concentré, tu fais ta rédaction web. L'après-midi, t'es plus cool, tu fais du social media.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'était l'idée.
Alors dans l'idée, moi j'avais aussi quelque chose à dire. C'est que... En ayant fini la formation, il y a eu des moments où j'ai traîné un peu les pattes quand même, rédiger les articles et tout ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et au début de la formation, je me rends compte que j'ai beaucoup peiné parce qu'il fallait rédiger un article, un texte, tu vois, nom à la concurrence, des choses comme ça, là, au tout début des modules. Et je ne voyais pas où tu voulais en venir, tu vois. Ou alors aussi au tout début, quand il fallait... mettre les clients potentiels.
Attends, ne spoil pas.
Ouais, oh, désolée. Bon. Bon, tout ça pour dire que quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais quelle coquine cette Lucie. Maintenant, je comprends. Mais tu sais, moi qui ai besoin toujours de la vision globale, et après, tu vois, j'ai l'exercice inverse, moi. J'aime bien avoir la vision globale et après aller voir dans la précision, tu vois. Et là, du coup, c'était l'inverse. Alors, au début, je me faisais des nœuds dans la tête. Et puis, au final, maintenant que j'ai terminé la formation, je trouve que dans cet ordre-là, c'est vraiment parfait.
Tout a du sens et prépare au module suivant.
Oui.
Et pour qu'à la fin, au démarchage, vous ayez tout. Et on l'a encore amélioré, puisqu'il y a Audrey Allou qui est en train de passer son master en ingénierie de formation, qui est en train d'améliorer encore la formation avec des exercices interactifs et vraiment une réflexion sur le e-learning qui est passionnante. Oui. Alors, on garde bien sûr les grandes lignes qui marchent très bien chez Formation Rédaction Web, mais elle est en train de faire évoluer la formation et de regarder les statistiques, c'est-à-dire qu'elle regarde quel est le pourcentage d'élèves qui réussit, par exemple, l'exercice du, on va dire, je dis au hasard, le cours 12.
Oui, oui.
Eh ben, elle regarde après ces modifications si les élèves réussissent mieux ou s'ils ont mieux compris, s'ils ont une meilleure note trois cours après parce qu'ils ont réussi à acquérir les compétences du cours précédent.
Ouais.
Donc, elle est en train de... C'est du travail... d'orfèvre, hein.
Ah oui.
Elle est en train de tout voir et c'est passionnant, elle me fait les comptes rendus, moi je me régale, je vois ses tableaux avec ses pourcentages.
Mais il y a une démarche scientifique.
Voilà. Ah ouais, ouais, non mais carrément. On rigole pas.
Bah non mais c'est... Attends, c'est waouh quoi.
En tout cas, on s'éclate et pourvu que ça continue et qu'on réussisse, qu'on continue à aider des personnes comme ça à se reconvertir, c'est chouette.
Ouais.
Alors, un petit mot à ajouter, Christine, qu'est-ce que...
Un petit mot à ajouter, qu'est-ce que je pourrais ajouter?
Ou quelque chose que tu aimerais partager?
Moi, en fait, je m'y retrouve vraiment maintenant dans cette formation, comme je te disais, sur mes valeurs, en fait. L'authenticité, le partage, la complicité aussi qu'on peut avoir, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Il y a les coachs, il y a toi aussi, puisque moi, j'avais la chance que tu sois là en Nouvelle-Calédonie aussi, ou Doris aussi. Hein, mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que je me reconnais vraiment dans ces valeurs-là et pour moi, c'est primordial. Et je pense que là, je réfléchissais avant de venir ce matin, je me disais, mais en fait, là, tu es à la porte de quelque chose et tu as déjà fait un pas, mais tout le meilleur reste à venir, en fait. Et... de ce que j'ai entendu dans les autres podcasts des autres personnes, si je suis d'accord avec ces personnes, c'est qu'une fois qu'on a terminé la formation, on a des bases bien solides et après c'est à nous d'aller exploiter toutes les opportunités que tu nous as présentées ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire non plus en étant couteau suisse, mais d'aller là où on a envie et vraiment laissez-vous porter, ça va venir tout seul et oui, il faut bosser.
Merci beaucoup Christine, c'était un plaisir de te recevoir et de t'écouter, je me suis régalée et j'espère que les auditeurs et les auditrices se sont régalés aussi, mais j'en doute pas trop. Je fais comme ta fille.
Oui, t'as raison. Fais
confiance. Alors bien sûr, n'oubliez pas un petit c'est pas un pouce en l'air, c'est il faut laisser un commentaire et noter le podcast, c'est très important pour la visibilité et puis aussi pour nous encourager parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle on n'a pas beaucoup de notes, c'est un peu tristounette. Pourtant, il y a beaucoup de vues et j'ai beaucoup de retours en message privé. Donc tant qu'à faire, laissez un petit commentaire et une petite note sur votre plateforme de podcast, ça sera très gentil. Merci beaucoup.
Merci Lucie, merci tout le monde.
Christine. Et tata.
Tata.